fait le tour de mon cœur, la courbe, courbe de tes yeux. De tes yeux, fais le tour de mon cœur, la courbe, courbe de tes yeux, fais le tour, tour de mon cœur.
Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier et Alliance Plus 103.1 à Nîmes. Je suis très heureuse et honorée aussi de recevoir aujourd'hui dans Jardin d'Isis Arlette Velty-Daumont, écrivain, auteur de plusieurs romans, qui écrit aussi pour le théâtre et également des poèmes. Arlette Velty-Daumont est née à Alger en 1929, d'une famille implantée là depuis 5 générations. Journaliste, anciennement rédactrice en chef de CIMAD Information, collaboratrice du magazine Pluriel, collaboratrice du courrier de l'ACAT, rédactrice en chef de la lettre Profil. Alors Arlette, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi l'écriture et cette forme favorite, le roman?
Il s'agit d'abord de dispositions innées qui sont un peu dans mes gènes, je pense. Ensuite, quand j'ai commencé à écrire, c'était pour partager des impressions et surtout par motivation, d'engagement. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, ça a continué sur la lancée. Voilà, puis aussi, alors la poésie, c'est pour le plaisir de la langue, pour redonner vie à une anecdote, à une histoire. J'aime beaucoup l'histoire d'ailleurs. Et puis la recherche de la construction poétique, du mot juste, enfin j'aime bien, voilà.
Et vos romans sont des témoignages,
oui,
de très forts témoignages.
Surtout, oui.
Je vais nommer quelques-uns de vos romans, quelques-unes de vos publications. Soleil de justice, premier recueil paru aux éditions Ouvrières en 1984. Qui n'a entendu parler des disparus d'Argentine à travers les mers de la place de Mai? Quelques 15 000 personnes au bas mot perdues dans l'opération Nuit et brouillard des généraux argentins. Proches de nous, deux femmes, deux Françaises, se sont trouvées projetées dans la fournaise de ces disparus. Ce livre le rappelle. Des bidonvilles de Buenos Aires aux champs de tabac de Perro Guria et jusqu'aux chambres de torture de l'école de mécanique de la marine, c'est le sort des opprimés qu'a partagé sœur Alice dans l'aventure humaine de la solidarité et de la justice, véritable passion. Ma question, Arlette, sera, y avait-il des raisons personnelles pour que vous abordiez un tel sujet ?
Oui, c'était pas un sujet pour moi, c'était une promesse que j'avais faite au père de sœur Alice, qui était donc un parent éloigné de la famille de mon mari, qui voulait absolument qu'on sache ce qu'avait fait sa fille, parce que comme elle avait disparu dans les prisons argentines, il voulait vraiment réhabiliter sa mémoire. Et moi, je suis partie en croisade, là vraiment, sans savoir que j'allais écrire un livre. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu entre les mains toutes les lettres de sœur Alice et vraiment j'ai compris un peu sa motivation, j'ai compris son cheminement et c'est tout ça qui est devenu un livre à la fin.
Oui, vous publiez d'ailleurs des lettres et des photos.
Oui.
Arlette va nous lire la préface de son roman Soleil de justice, préface sans adresse.
Oui, préface sans adresse parce que bien entendu le destinataire a disparu. Paris, le 1er mai 1983. Ma chère Alice, voilà, j'arrive au bout de la tâche que m'ont confiée ceux qui ont réussi à me faire croire que j'en étais capable. Ne ris pas, ce n'était pas évident pour une femme de pasteur de raconter des histoires de bonne sœur. Mais ils ont été nombreux, les parents et les amis, qui ont fouillé dans leur mémoire et dans leur tiroir pour y trouver un signe qu'ils n'auraient pas perçu comme tel en son temps. Et puis surtout, c'est à l'obstination tranquille de ton père que je dois cette aventure. Il s'est fixé pour objectif de faire entendre ta voix coûte que coûte. Alors, j'ai voulu l'aider à te laisser parler. Merci d'avoir été si précieuse dans tes descriptions, si vivante dans tes récits. Merci surtout de m'avoir entraînée pas à pas sur ce chemin cruel et lumineux de l'histoire sainte des peuples d'Amérique du Sud, comme tu le dis si bien. Merci de m'avoir fait contempler avec toi le temps d'un livre, ce soleil de justice.
Nous sommes aujourd'hui avec Arlette Velty-Daumont, écrivain. J'inventerai mon peuple et son deuxième roman, préfacé par Khalida Messaoudi, actuelle ministre de la Culture en Algérie. Il s'agit d'un roman historique sur l'insurrection de Bou Hammama dans le Sud Oranais en 1882. Roman paru aux éditions de Paris en 1995. Parce qu'il a participé à la Commune, Célestin Amadeuf, bourgeois idéaliste, d'ascendance noble, fuit Paris et la répression. Avec sa femme et ses enfants, il arrive à Oran en 1871 pour y ouvrir un grand magasin, succursale de l'entreprise familiale. Victime d'une escroquerie, il gagne bientôt Tlemcen. Aïn el-Hadjar ensuite, dans un pays en constante insécurité, partagé entre le pouvoir militaire et l'administration civile. Mais cette conquête du Sud, où l'appât des terres vierges rencontre le désir de civiliser les populations autochtones, se brise en 1882, date de l'insurrection de Bou Hammama qui embrase le Sud oranais. Massacres, destructions se succèdent, entraînant la ruine définitive de Célestin Amadeuf, qui comprend que le rêve colonial est sans avenir s'il ne s'incarne dans un peuple nouveau. Ce roman, s'il est un récit nourri de sang et de passion, est surtout l'histoire d'un peuple, dans le décor grandiose du sud algérien, secoué de révoltes endémiques. Immigrés d'Europe et tribus du Maghreb s'affrontent au sein d'un formidable creuset de culture et de religion. La France a engrangé les archives, l'Algérie a récolté la mémoire. Aux utopistes d'aujourd'hui de remodeler le peuple de Méditerranée, balayé sans cesse à réinventer. Quelles furent les motivations qui vous ont inspiré, Arlette, pour l'écriture de ce roman, dont on peut dire que c'est un roman historique?
Oui, tout à fait. C'est en quelque sorte une quête d'identité. Je me suis demandé, vers arriver à la cinquantaine, pourquoi je me retrouvais vivre en France alors que j'avais toujours pensé que ma vie était en Algérie. Et alors là, je suis partie sur les histoires de ma grand-mère qui racontait beaucoup de choses sur Bou Hammama parce qu'elle était petite fille quand son père avait été complètement ruiné par cette insurrection. Mais ça n'avait pas un écho extraordinaire à cette époque. Ça, si je peux dire, ça entrait par une oreille et ça sortait par l'autre. Et vers la cinquantaine, quand j'ai compris qu'il fallait que je recherche un peu le pourquoi du comment, partant de ce nom, Bou Hammama, il a fallu que je recherche tout. Et c'est là que je suis allée interroger les archives de la France, les historiens algériens qui ont écrit sur Bou Hammama. Et j'ai essayé de confronter les dires de ma grand-mère à tout ce que j'apprenais. Ensuite, je suis allée sur les lieux où mes arrière-grands-parents avaient vécu, c'est-à-dire dans le Sud-Oranais. Et bon, bah, c'est devenu un roman, ça aussi, voilà.
Oui, un roman très, très intéressant, très agréable à lire, qui nous accroche dès la première ligne. Arlette va partager avec nous l'avant-propos de « J'inventerai mon peuple » en nous lisant cet avant-propos.
Oui, ça c'est le récit finalement de quand je suis retournée au petit cimetière où était censé reposer mon arrière-grand-père et dans la recherche qui a suivi. Je franchis le mur du petit cimetière oublié, profitant d'une brèche dissimulée par les ronces. En cet après-midi d'avril, l'air est calme et léger, à peine tiédi par le soleil des hauts plateaux qui tire sa révérence en allongeant les ombres. Au pied des cyprès, sur quelques dalles de marbre fendues, se lisent encore des noms, Hernandez, Sanchez, Ripoll. Une petite cloche tinte dans le lointain, cristalline. Des enclos de fer rouillé, rosaces, acanthes, fleurs forgées de liquage pour dernier sommeil, délimitent de travers des lopins de vide, des lopins de rien. L'allée centrale est propre. Le portail, cadenassé, interdit les intrusions profanatoires. La petite cloche, mais est-ce bien une cloche? Et de quelle possible église? Évoque encore une enclume chantant sous le marteau. Le chemin transversal m'offre un lilas sauvage en bouquet de bienvenue. Les grappes se balancent au vent léger tandis que j'ai mis la petite cloche toute proche. Je me retourne, elle est là. Ni cloche, ni enclume, mais fonte émaillée, ex-voto ne tenant plus que par un fil de fer qui la balance au gré du vent et frappe contre la tête du liquage anonyme. Je la soulève fébrilement, cherchant à percer son secret. Un nom, un prénom, à mon père, à mon mari, rien. L'émail, grignoté par 100 ans de petits zéphyrs et de grandes tempêtes, ne laisse plus paraître qu'une tache blanche auréolée de bleu. Alors, je comprends que c'est là. Et je lui dis « Bonjour, me voilà. J'ai cheminé vers toi le temps de t'apprendre et je repars vers la vie, vers l'amour, vers la mort qui n'a plus de sens puisque je perpétue ton message. » Et la petite cloche d'émail ébréchée a chanté « Va !»
Nous allons maintenant nous intéresser à une autre publication de Arlette Velty-Daumont, « Le chemin qui mène à la mer », qui est un mini-roman, suivi de contes de fées et de méfaits. Là, il s'agit de nouvelles. Ce livre est paru en octobre 2005 aux éditions de La Campagnette. Ce sont des récits d'Algérie et du Languedoc. 12 récits inspirés de faits réels ou qui auraient pu l'être. 12 textes de style et de facture différents, parfois déconcertants, qui s'entrecroisent comme la vie s'en mêle, comme la tristesse côtoie la joie, comme le courage traverse la peur. L'histoire de chaque être humain est faite à la fois d'ombre et de soleil, parfois de brûlure, parfois de glace. De grand bonheur en amer chagrin, Arlette Velty-Daumont a connu la joie de vivre en Algérie et la douleur de la reconstruction sur la rive d'en face. Mais partout où les mains se tendent, la vie est la plus forte, même et surtout si la quête de ses racines débouche sur le retour vers la terre aimée. Arlette va nous lire une brève nouvelle, mais va nous parler peut-être un petit peu de ce livre.
Oui, bon, je ne m'étendrai pas sur le roman qui est tiré d'un fait divers et que bon, j'ai interprété vraiment dans le style roman, mais les nouvelles surtout m'importaient parce qu'elles sont le reflet de ce que j'ai vécu là-bas, quoi, ou de ce qu'on m'a raconté. Et celle que j'ai choisie pour vous lire, qui n'est pas trop longue justement, c'est une histoire douce amère d'une femme, une oranaise qui je ne peux pas dire qu'il rentre en France, puisqu'elle n'était jamais sortie d'Algérie, mais qui est ce qu'on appelle dans le flot des rapatriés, et qui arrive sur la terre de Marseille pour la première fois. Voilà. Et là, un choc l'attend.
Et il faut être particulièrement attentive à la dernière phrase, n'est-ce pas, Arlette ?
Oui, parce que c'est juste un mot qui finalement donne toute la clé du fossé qui existait à cette époque-là entre les deux mentalités.
Alors, écoutons « Drôle de oiseau ».
Madame Martinez avait réussi à traverser la ville en plein chaos pour monter dans le dernier bateau en partance pour la France. Jusqu'ici, elle avait survécu aux attentats du FLN, aux ripostes sanglantes de l'OAS, à la panique d'un embarquement anarchique sur des passerelles surchargées. Une de ses valises en avait fait les frais, d'ailleurs. Et ce n'était pas la moindre. Celle qui contenait ses photos de famille et les mèches de cheveux de son fils André, prélevées à l'âge de 4 ans. Une boucle blonde et soyeuse, tout ce qui restait de l'enfant mort à 12 ans. Ce trésor reposait à jamais par 100 mètres de fond dans le port d'Oran. Y a-t-il encore des paliers au désespoir quand on pense en avoir touché le fond ? Madame Martinez avait serré les dents et s'était accrochée à son dernier bagage, sans lâcher surtout la cage de l'oiseau recouverte d'une couverture sombre pour le protéger. Maintenant, sur le pont, assise sur une chaise longue bancale, elle regardait entre deux têtes de passagers la côte oranaise s'éloigner pour toujours. Ce ne fut que lorsque l'horizon confondit le ciel et la mer, que le roulis s'apaisa et que la nausée lui laissa quelque répit, qu'elle réalisa sa situation et laissa les larmes raviner ses joues en silence. Le quartier de Carguinta, le cimetière où reposaient Robert et leur fils André, la promenade en bord de mer, rien. Elle ne reverrait plus rien de ce qui avait fait son quotidien pendant 70 ans. Quant à l'inconnu vers lequel elle s'avançait, elle refusait d'y penser, de peur de s'effondrer. Au matin, lorsque la côte marseillaise fut en vue, le pont s'anima et Joséphine Martinez tenta d'apercevoir Marseille et le château d'If dont les initiés parlaient autour d'elle. À nouveau, ce fut la cohue, mais les passagers, cette fois, semblaient moins pressés de descendre qu'ils ne l'avaient été de monter. Madame Martinez, entraînée par le mouvement, s'agrippait à sa valise tout en essayant de protéger la cage de l'oiseau. Enfin, elle foula pour la première fois le sol français. Un service d'accueil avait été mis en place par des ONG qui acheminaient la longue file des réfugiés vers le stand de la Croix-Rouge. Sous la pancarte qui indiquait « Accueil des rapatriés », des bénévoles inscrivaient le nom des arrivants et, s'ils la connaissaient, leur destination. Ceux dont bien peu d'entre eux étaient capables. Un homme s'emporta dans la foule. « On n'est pas des rapatriés, on est des exilés. On n'a pas de famille ici. Là-bas, on y était depuis 4 générations. » Joséphine Martinez avançait d'un petit pas. Dans la chaleur qui régnait sur le quai, l'oiseau s'agitait dans sa cage. Soudain, Madame Martinez eut un haut-le-corps. Un arabe s'avançait vers elle. « Donne-moi ta valise, madame, je te l'amène jusqu'à l'autobus. » Le premier moment de stupéfaction passé, Joséphine Martinez se rebiffa. « Pas besoin que tu m'aides, Ahmed, je peux la porter toute seule. » Compréhensif, le porteur insista tout de même. « C'est gratuit, madame, je te jure, toi tu es toute seule, moi je t'aide. » Déjà, il avançait la main sur la cage de l'oiseau. Madame Martinez se dégagea brusquement, ce qui eut pour effet de faire glisser la couverture. La cage apparut ainsi que le superbe perroquet qui se mit à rouler des yeux affolés. Soudain, sa voix au perché recouvrit le tumulte. « Algérie française, vive l'Ouest !» Tout mouvement se figea instantanément dans un silence glacial. Jusqu'à ce qu'un rire énorme la rompit. Le porteur arabe s'en étranglait. « Qu'est-ce qu'il est dégourdi, cet oiseau !» Maintenant, un fou rire libérateur gagnait tous les passagers, quelle que soit leur opinion. Envoler l'atmosphère pesante, oublier le drame l'espace d'un instant. Madame Martinez, protégeant de ses deux bras la cage de l'oiseau factieux, finit par abandonner sa valise au porteur qui lui dit en souriant « Ça fait 10 ans que je travaille ici, madame. Tu me fais confiance. Mais qu'est-ce que tu es venu faire en France, Ahmed ?»«
Je travaille, madame. Comme ça, mes enfants au bled, ils peuvent manger. »
Ils ne dirent plus rien jusqu'au car qui devait conduire les passagers vers un hébergement provisoire. Le porteur plaça la valise dans le coffre, puis se retourna vers Joséphine Martinez.
« Au revoir, madame. Porte-toi bien, Inch'Allah. »
Puis, après avoir esquissé son départ, il se retourna et dit
« Moi, c'est Saïd, madame, pas Ahmed. »
Nous allons aller à la rencontre d'un autre roman écrit par Arlette Velty-Daumont, « La petite maison de l'autre côté », qui est une correspondance entre époux, m'avez-vous confié.
Oui, c'est pas vraiment un roman parce que c'est une histoire vraie. C'est la correspondance de mes parents pendant l'été 62. C'est-à-dire, maman était très malade et papa l'avait amenée à Montpellier où nous étions à ce moment-là. Et lui était retourné à Alger pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être encore de leur vie entière passée là-bas. Mon père avait un magasin de musique, il avait beaucoup d'instruments, et il n'a rien pu ramener enfin, de tout ça. Mais bref, il fallait quand même qu'il ramène au moins du linge, de quelques vaisselles et tout pour essayer de reconstruire un petit peu leur vie. Donc, il s'écrivait tous les jours. Les lettres arrivaient quelquefois, les réponses avant les questions. Enfin, ça a été terrible pour eux, surtout maman dans l'état où elle était, dans l'angoisse et aussi avec la situation qui, à Alger, n'était pas très très bonne non plus. Donc, c'était très très angoissant. Mais ça, j'ai voulu publier ces lettres, malgré leur intimité, malgré tout ce qu'elles racontent. C'est que C'est un témoignage vraiment unique de ce que ont vécu ce qu'on appelait les rapatriés d'Algérie à cette époque-là. Vraiment, dans le menu détail du quotidien, on s'aperçoit vraiment de l'ampleur des dégâts.
Il est à noter que cette parution intervient à la date du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie.
Oui.
Et que cette petite maison a eu l'occasion de devenir lieu d'asile et havre de paix pour des intellectuels algériens en 1993-1994.
Oui, ça a été vraiment un retournement de situation, mais qui n'était pas fait pour me déplaire, justement.
Alors Arlette, pour partager cette petite maison de l'autre côté, va lire pour nous un extrait de l'épilogue.
Oui, jamais par respect pour mes parents, l'idée de retraverser la mer ne me serait venue si, en 1975, une opportunité fortuite ne s'était présentée. Ma mère elle-même m'encouragea, me donnant en quelque sorte par procuration le feu vert qu'elle se refusait. Je vécus ce retour comme un exorcisme, d'autant plus douloureux qu'il me révélait qu'en 25 ans de vie dans ce pays, j'avais ignoré le peuple au milieu duquel je vivais, confondu la richesse de sa culture avec du folklore et sa sagesse avec du fatalisme. Depuis, à travers l'accueil que je reçois à chacun de mes retours au pays, mais aussi à travers la correspondance de ces disparus que j'ai tant aimés, je mesure l'ampleur du gâchis consommé par cette rupture, la faute de ce rendez-vous manqué de l'histoire, l'erreur de ce divorce contre nature. Mais par-delà la vanité des regrets, le désir revanchard d'apurer les contentieux ou le ridicule des autoflagellations exigées par ceux qui n'ont pour tout projet que de justifier leur passé, il y a mieux à faire si l'on veut réparer nos manquements. L'Algérie d'aujourd'hui est un pays jeune dont la majorité des habitants n'a pas connu d'autre époque que celle de l'indépendance. Sa jeunesse dynamique a été la première à inventer le printemps du Maghreb, hélas réprimé comme lancé et floué par la récupération intégriste. Mais c'est vers nous, Français, qu'elle tourne ses regards et n'a que faire de nos états d'âme passéistes. Ne manquons pas encore une fois ce rendez-vous qui nous est fixé dans la transparence et dans l'amitié généreuse.
J'espère que cette émission vous a donné l'envie de découvrir les romans tissés sur la toile de l'histoire contemporaine. Arlette Velty-Daumont, qui, au travers d'une écriture romancée, effectue un véritable travail d'archives et de mémoire. J'ajoute que son écriture précise et fluide nous interpelle dès les premières lignes et nous donne envie de la suivre tout au long du roman. Arlette, pouvez-vous nous rappeler les titres que nous avons évoqués, ainsi que ceux des autres romans que nous avons, dont nous n'avons pas eu le temps de parler, et nous dire où nous pouvons nous procurer vos romans, qui sont tous disponibles, il faut le dire.
Oui, ils sont disponibles. C'est donc le premier, c'est Soleil de justice ou La passion de Sœur Alice. C'est donc l'histoire de Sœur Alice Daumont, disparue en Argentine. Ensuite, c'est J'inventerai mon peuple, paru aux éditions Max Chalaï, mais dont j'ai des exemplaires. Ensuite, Conte de fées et de méfaits et Le chemin qui mène à la mer. Ensuite, les poèmes d'Argelia, qui sont d'Argelia, on devrait dire, puisque c'est Algérie en espagnol. Et puis, La petite maison de l'autre côté, ça c'est la correspondance de mes parents. Et le dernier qui vient de sortir, mais qui n'a rien, pas vraiment à voir avec l'Algérie, Kéké ou René-Louis Doyon intime. C'est la vie de mon grand-oncle, écrivain d'ailleurs. Oui, on peut les trouver aux éditions de la Campagnette, 40 rue de la Sorbès, 34 070 à Montpellier. Voilà, je peux donner mon téléphone
oui,
aussi,
bien sûr,
06 30 29 29 93. 06 30 29 29 93.
Voilà. Nous terminerons en écoutant un poème d'Arelia. Avant, tiens à vous préciser que vous pourrez retrouver Jardin d'Isis et son hommage aux poètes ou écrivains vivant dans notre région, chaque deuxième et troisième jeudi du mois, de 12h10 à 12h40 sur Radio FM Plus 91 à Montpellier et sur Alliance Plus sur la fréquence 103.1 à Nîmes. Poème d'Arelia.
Poème de loup. En vagues déferlantes ou clapotis baisés, la mer, source incessante, génère mon envie de vivre et d'entreprendre. Midi, le feu, le sable incandescent, l'eau bleue en gerbe mousse attise mon désir d'être et de réaliser. C'est là que mes mains s'ouvrent, que mon âme écoute et que ma vie reçoit la promesse de faire dans le silence du repos. C'est l'instant de l'été où s'ébauche septembre, à charge pour octobre de l'accomplir peut-être. »